trouve que cette tribune de Bloomberg, elle est vraiment bonne et elle explique aussi une partie des problématiques de la Chine à long terme. C'est-à-dire quand vous allez attirer du talent, quand vous voulez attirer des choses, c'est facile au début, c'est très difficile à la fin. Le pivot pour la Chine, là, il va être compliqué. C'est pour ça aussi que la Chine a besoin d'entreprises, qu'il y ait une certaine liberté, ce genre de choses. Sinon, vous allez pas attirer du talent. Comme le dit l'article, c'est très facile. D'aller voir Mbappé, de lui dire on va te filer 500 millions, viens jouer dans notre championnat. Voilà, l'argent fait beaucoup de choses, mais ça c'est possible quand vous êtes avec des stars, parce qu'il y en a 10, 10, 15. Bon, même une fois que vous avez acheté 10, 15 stars, voilà quoi. Ça vous a coûté 10 milliards, c'est le bout des cacahuètes, ça fait beaucoup, mais pour la Chine, c'est toujours possible. L'intérêt, il est très limité. Mais c'est un moyen aussi de s'imposer dans une politique et une géopolitique. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est problématique, c'est quand vous cherchez des chercheurs, par exemple les chercheurs d'ASML, ce genre de choses, bah là, c'est tout à fait. Vous n'êtes déjà pas sur la même chose. Parce que vous n'allez pas les payer 500 millions pour venir, vous allez les payer moins, certes, mais il vous en faut 1000 ou 2000. Et donc si vous commencez à tous les payer 1, 2, 3 millions pour essayer de les attirer à tout prix, vous vous rendez compte, ça commence à faire cher. Vous avez une concurrence pour les talents qui est quand même importante. Les boîtes américaines sont capables de payer très cher. Les boîtes européennes sont capables de payer très cher aussi, de plus en plus. Il y a un retour des talents en Europe aussi. Pourquoi il y a un retour des talents en Europe? Parce qu'il y a quand même une qualité de vivre en Europe qui est quand même importante. Et on voit de plus en plus de top profils revenir en Europe. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un équilibre, qu'il n'y a pas les problématiques aussi fortes de woke et tout ça qu'il y a aux États-Unis, parce que au niveau de la structuration de la vie, c'est quand même un peu plus simple. En Asie, il y a le même y a aussi des problématiques. Beaucoup de gens qui étaient partis là-bas reviennent parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'avec le Covid et tout, c'était très contrôlé. Dans les zones de semi-liberté qu'on avait avant autour de la Chine, c'est-à-dire Hong Kong et tout ça, il y a une main de fer qui s'est mise et ça pose beaucoup de problèmes. Il y a vraiment une grosse sortie de Hong Kong avec beaucoup de top talents qui sortent de cette zone-là. Il reste des poules de talents, il reste Singapour, Taïwan, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué. Et que, à mon avis, pour ces pays asiatiques, on arrive un petit peu à une certaine limite. C'est-à-dire qu'en fait, après, quand vous voulez vraiment attirer du talent et vraiment des gens qui ont une certaine compétence, bah, ces gens-là, ce qu'ils veulent, au-delà de l'argent, c'est la liberté, c'est pouvoir discuter, c'est pouvoir faire, comme je vous le dis là, échanger nos idées, ne pas être d'accord. Ça, c'est beau, ça, c'est bien. On va au café en bas, on s'engueule parce que il est de droite, t'es de gauche, machin, et on vit, vous voyez. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un truc un peu artificiel comme il y a en Chine, et j'ai vécu dans beaucoup de pays asiatiques, et il y a des gros avantages. Par exemple, en Corée et au Japon, où j'ai pas mal vécu, il y a un avantage, c'est que c'est vrai que la tranquillité d'esprit que vous avez, dans le sens où vous n'allez pas vous faire agresser, vous n'allez pas vous faire voler, elle est considérable. Et vous l'avez pas en France. Vous l'avez encore moins aux États-Unis, mais vous l'avez pas en France. Vous l'avez un peu plus dans certains pays d'Europe, mais même dans les pays d'Europe du Nord, c'est un peu compliqué suivant où vous allez. Donc voilà. Donc il faut un certain équilibre. Et ça, c'est la même chose. Je pense qu'il y a plus de capacité pour l'Europe de faire un tour de vis, de remettre une certaine stabilité tout en gardant cette liberté démocratique qu'on a et cette capacité d'avoir une vision et une émancipation des talents qui est importante, sans avoir les défauts qu'on commence à voir aux États-Unis avec des visions sectaires, groupe par groupe, et sans avoir non plus les défauts qu'on voit en Asie avec quelque chose qui est très lié à l'argent. Et où finalement la liberté finale d'expression, de vision, elle est plus limitée. Après, par contre, ils ont un avantage sur certains types de technologies, c'est qu'en Asie, ils sont beaucoup plus ouverts sur l'aspect technologique et donc ils ont moins de freins à la technologie, et ça, c'est un truc qui peut les avantager dans le cycle qui arrive, parce qu'on est sur un cycle avec beaucoup de technologies de rupture, et c'est vrai qu'en Europe, on est encore très marqué par cette vision un peu, comme je vous l'ai dit dans le live de vendredi, judéo-chrétienne, où à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va se flageller parce qu'il y a un risque. Donc quand il y a une nouvelle technologie, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Mais on va se flageller parce qu'on va voir tout de suite le noir et on va tout de suite se dire qu'il y a des potentiels d'abus, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que ça attire encore pas mal de talents en Asie parce que justement, il y a une ouverture d'esprit qui est un peu plus grande là-dessus. Mais je pense que sur ça, on peut faire un certain travail et on commence à voir au niveau de l'Union européenne et de ce genre de choses, des travaux qu'avancent. Il y a pas mal de sujets qui ont quand même avancé là-dedans. Donc je pense que ça c'est une bonne chose.